ressac. Avant que les royaumes ne s'unissent sous le règne actuel du roi des rois, un empire prospérait au nord-ouest du monde, l'Osmanli. Disposant de richesses naturelles au-delà de la nécessité, il vint au Grand Khan l'ambition d'élargir ses frontières et il rassembla une armée de 10 000 hommes qu'il fit marcher vers l'est. Alors que les premières villes tombaient sous les assauts de l'armée d'Osmanli, les royaumes convoquèrent leurs mages. Ceux-ci, formant ce qu'on appela plus tard l'armée des 50, se rendirent au front, tinrent tête par leur pouvoir aux soldats du Khan et parvinrent à les repousser, lui et ses hommes, dans leurs frontières. On ignore au juste les faits précis qui suivirent la déroute de l'armée d'Osmanli, mais il est très probable que le Khan, préparant une contre-attaque appropriée, fit appel lui aussi à des mages, voire des démons et autres puissances plus noires encore. Toujours est-il que le relief et la population de l'Osmanli changèrent, des montagnes se dressèrent, de curieux dieux vinrent parcourir ses routes, des fleuves balayèrent des villes et des créatures jusqu'alors inconnues s'y installèrent. Dans ce contexte chaotique, le sombre pays, car tel fut le nom que l'on donna à l'Osmanli, ne constituait pas une menace en soi. La nature barbare de ses nouveaux habitants créait tant de conflits au sein du territoire qu'aucune menace organisée ne pouvait atteindre à nouveau les royaumes. En ces contrées où ne régnait nulle loi, le sombre pays fut la destination de criminels recherchés, de philosophes en quête de liberté ou de mages en quête de savoir. Dans les royaumes, on propose toujours aux condamnés à mort de rejoindre le sombre pays en guise d'alternative. Vu les nombreux périls mortels de ces territoires, il s'agit pour la plupart d'entre eux d'un bref rallongement de leur existence. Néanmoins, en prévision d'une future menace, il est dit que l'armée des 50 élut domicile permanent dans la vaillante cité de Varna, dernière ville frontalière avant le sombre pays, et qui perpétue en ses murs la transmission de son savoir. Les murs cyclopéens de la cité éternelle s'étendent au-delà des habitations, d'une mer à l'autre, fermant pour toujours toute voie terrestre à quelconque habitant du sombre pays voulant pénétrer dans les royaumes. Jusqu'à aujourd'hui, les milices de vaillants guerriers aux armures à tête de chat de Varna ont toujours mené à bien leur mission de protection. Mais ces informations, qu'elles soient faits ou légendes, sont le dernier de vos soucis. Vous avez vécu à Varna depuis toujours, fils de personne, courant les rues, dormant dans les maisons abandonnées, la rapine et le vol sont votre lot. Aussi loin que vous vous souveniez, vous traîniez avec une bande de gamins crasseux, à perdre votre temps, vous manquant de l'autorité, et bien que les hommes chats vous aient souvent attrapé par la peau du cou pour vous traîner devant la justice, les royaumes n'allaient pas rejeter un enfant dans le sombre pays, aussi intolérable soit son comportement. Mais un jour, vous avez fouillé les mauvaises poches. D'une part, parce que les replis de velours bleu étaient vides, et d'autre part, parce que le vieil homme saisit alors votre poignet avec une force insoupçonnable. Il tourna vers vous des yeux au reflet de flamme où vous pouviez lire un certain étonnement, et il murmura quelques mots en faisant un signe de la main. Quelque chose se serra en vous, et bien que vous puissiez respirer et même vous mouvoir, vous eûtes la trouble impression d'être prisonnier au plus profond de votre être. De sa poigne inflexible, il vous traîna, paralysé et terrorisé, jusqu'au temple de l'armée des 50, où il vous poussa par une porte dérobée.
Je te propose un lit frais et un repas chaud, chaque jour,
vous dit-il, alors que vous découvriez une sorte de laboratoire étrange, meublé d'un lit, d'une bibliothèque et d'un âtre poussiéreux.
En échange, tu apprendras la magie que je te transmettrai. Libre à toi de vivre et de faire ce que bon te semble de tes bras, en bien ou en mal, mais tu ne devras jamais, jamais, tu m'entends, jamais user des sorts que je vais t'apprendre, ni même faire mention de tes connaissances devant un autre, fût-il un mage. Sinon, je te livrerai moi-même aux légions de l'enfer peuplant le sombre pays, et crois-moi, je suis un homme à tenir mes promesses.
Vous acceptâtes de bon cœur la proposition, inconscient de votre chance ou de votre malchance, ne songeant qu'au fait de pouvoir manger une fois tous les jours et, pourquoi pas, de fourguer les quelques livres que vous aviez sous les yeux à un receleur de votre connaissance. Votre précepteur s'appelait Peladan, l'un des 50, et il tint sa promesse. Il vous éveilla petit à petit à la sensibilité de la magie, à la lecture, des mots simples jusqu'aux écrits les plus hermétiques, aux connaissances des plantes, aux légendes anciennes. Les années passèrent. Un soir, il vous déclara que le lendemain, vous seriez apte à apprendre votre premier sortilège. Comme tous les soirs depuis 6 ans, vous traversez la porte dérobée dissimulée sous le lierre vivace qui pousse derrière le temple de l'armée des 50. Sur la table, vous trouvez un demi-poulet à la peau encore frémissante, des pommes grillées dans le jus et un bol de thé. Peladan, songeur et plus silencieux que d'habitude, ravive l'âtre d'un tison, attendant en silence que vous finissiez votre repas. Suspendu dans l'air, une impatience sourde, à laquelle vous mettez fin en poussant votre assiette de côté. Peladan se retourne et vous déclare.
« Je vais t'apprendre 2 sorts ce soir. Ce sont des petits sortilèges, mais avec de la pratique, ils peuvent te venir en aide. Une fois que tu les auras pris, tu devras t'entraîner toute la nuit. »
Peladan vous montre un signe que vous reproduisez.
« Voici le sort d'étincelle, qui te permettra de créer une petite flamme. »
Vous esquissez maladroitement le geste de votre maître, et une petite flamèche vient naître au bout de votre index.
« Félicitations !»
commente calmement Peladan en dessinant un nouveau signe magique.
« Voici le second sortilège, parapluie. »
Vous reproduisez le signe mystique, mais rien ne se passe. Peladan saisit le bol de thé et le verse sur votre tête, mais le thé est repoussé par un bouclier invisible et s'écoule autour de vous.
« Félicitations, apprenti. Nul doute que tu te prépares à une longue carrière chez les mages. À présent, je dois te laisser. Je te rappelle, si tu veux conserver ces pouvoirs, entraîne-toi toute la nuit. »
Et Peladan franchit la porte de votre chambre tandis que vous reprenez vos exercices. Au bout de quelques heures, vous êtes bien fatigué et vous vous allongez sur le lit dans les bruits d'un sommeil naissant. C'est un homme chat, la lame de sa lance sur votre cou, qui vous réveille en hurlant.
« Debout, toi, es-tu un mage ?»
Vous clignez des yeux et vous vous apercevez que votre pièce secrète est envahie par une escouade de soldats. Le chef de la garde, que vous ne connaissez que trop bien pour toutes les fois où il vous a réprimandé, vous dévisage l'air incertain.
« Amenons-le !»
On vous soulève sans ménagement et on vous pousse dehors, dans un petit matin froid et des rues vides. Des grognements répondent à vos questions. Vous réalisez bien vite que l'on vous mène tout droit au palais royal, qui se dresse dans toutes ses flèches et ses dômes brillants sous les premières lueurs orangées de l'aurore. Vous traversez un nombre conséquent de corridors et de grandes pièces flanquées de soldats humains et félins au garde-à-vous. Enfin, on vous poste devant le trône de Varna, où le roi Syaxar, un gigantesque homme lion au regard fascinant, vous toise avec une déception visible. Debout, il fait le double de votre taille. Il descend les quelques marches qui vous séparent et s'appuie sur son épée qu'il a sortie de son fourreau.
Je vois la vérité et le mensonge. Prends donc garde à tes paroles. Je sais que tu n'es pas un des 50, mais connais-tu la magie ?
Vous répondez, hésitant, que vous ne connaissez que quelques sorts.
Un apprenti, je m'en doutais. Si néanmoins les 50 ont jugé bon de commencer ton enseignement, alors je vais m'en remettre à toi comme je m'en serais remise à eux. La situation est très grave.
Il marque un temps pour attirer votre attention et plonge ses yeux félins dans les vôtres.
Une nouvelle armée de 10 000 soldats arrive depuis le sombre pays. Qui l'a formée, de quoi est-elle constituée, nous l'ignorons, mais elle sera à nos portes dès ce soir. Les 50 sont là pour nous protéger comme autrefois, penses-tu? Mandant la garde pour solliciter les mages, celle-ci a retrouvé 49 cadavres dans le temple. 49 cadavres et toi-même. Et Peladan, le plus grand d'entre eux, manque au compte, soustrait à Varna pour de funestes desseins. Notre ennemi est redoutable de stratégie et a planifié son attaque en nous plaçant dans une situation délicate. Des messagers sont allés quérir l'aide des royaumes les plus proches et relayer l'alerte dans le monde connu, mais entre-temps, il faut protéger Varna. Voici mon plan. Nous allons placer toute notre garde devant les murs de la cité et toi, le mage, en toute première position. Notre ennemi doit s'imaginer avoir éradiqué les 50, mais toi, l'apprenti, les persuadera du contraire, ne serait-ce que pour gagner une nuit de plus en attendant les renforts. Va, et ne me déçois pas.
Bien que la perspective d'être en première ligne d'une bataille contre les légions du sombre pays ne vous enchante guère, avez-vous vraiment le choix ? Après la bénédiction du roi et la ferme poigne du capitaine de la garde, on vous hisse sur un cheval que l'on guide hors de la cité. Nul ne sait que les 50 ont été décimés, et à mesure que la garde de Varna prend place devant les portes de la cité éternelle dans leurs armures brillantes, toutes voient en vous le mage qui les mènera à la victoire. On vous acclame, sous le regard lourd de sens de l'homme chat capitaine de la garde, qui chevauche à vos côtés. Alors que le soir tombe sur la triste lande de Tekirdag, une ligne sombre se dresse comme une marée sinistre à l'horizon. Présence sombre et oppressante. Dans un silence brisé par le tintement des armures et l'impatience des chevaux, des torches s'illuminent au loin et des tentes se dressent. Enfin, alors que la lune claire se reflète sur les dômes brillants des palais, une escouade s'avance vers la ville. Piquant des deux, le capitaine de la garde vous entraîne à leur rencontre. À la tête de l'escouade ennemie se tient un immense orque coiffé d'un homme ciselé dans un crâne, accompagné de gobelins puants tenant des flambeaux. À votre approche, l'orque, qui est presque à votre niveau bien que vous soyez à cheval, retire son homme et crache sur le sol.
Nous sommes des milliers et vos mages sont morts, livrez-nous la ville.
Le capitaine de la garde déclare alors en vous présentant.
Les mages vous attendent, et voici leur émissaire.
L'orque crache à nouveau et dégaine un cimeterre aussi grand qu'une lance.
Un mage, vraiment ?
Vous esquissez un signe, et une flamme vacillante naît dans la paume de votre main et vient éclairer le visage répugnant de l'orque. Celui-ci, consterné, crache sur le sol à nouveau, remet son homme et détale vers le campement ennemi. Le capitaine de la garde hoche de la tête, soulagé, et vous retournez vers la cité sous les hurrahs de la ligne de défense, pour rejoindre au galop le palais du roi Syaxar. Celui-ci écoute avec attention les détails de votre entrevue avec l'armée ennemie.
Puisse cela nous faire gagner suffisamment de temps avant l'assaut. À présent, penchez-vous sur cette vieille carte d'Osmanli. Cette armée vient depuis le passage à Istanbulis sur la mer Marmorienne, probablement dans la zone qui s'étend depuis le delta de Kutaya, où la population est nombreuse, jusqu'au pied des monts Esquisseïr, où les métaux pour forger les armes abondent. Ces orques, gobelins, trolls et autres créatures infectes n'aspirent pas à l'unité. Elles agissent dans une discipline inspirée par un leader d'une remarquable puissance. La sagesse nous invite à agir différemment de lors de la guerre contre le Khan il y a des siècles. Le temps de constituer une armée solide avec les renforts progressifs des royaumes voisins, nous souhaitons envoyer plusieurs groupes légers d'intervention dans le delta du Kutaya pour déterminer qui est ce chef et, bien entendu, l'éliminer. Ces groupes d'intervention passeront par la lande de Tekirdag, la forêt du Bolaïr, remonteront le long de la côte de Gallipoli pour traverser la mer dans la cité des eaux de Sanakale et rejoindront le cœur du sombre pays en évitant l'armée en marche. Je vous honore et vous nomme tous les deux dans notre premier groupe. Les connaissances de l'apprenti soutiendront votre habileté au combat, capitaine.
Nous sommes honorés,
répond martialement le capitaine, n'exprimant pas tout à fait votre avis. Les préparatifs sont vite expédiés, et au cœur de la nuit, 6 chevaux filent sur la lande plate exhalant des parfums de thym, de lavande et de bruyère. Malgré la clarté laiteuse des étoiles et de la lune se reflétant sur les armures polies, malgré le martèlement des sabots et le tintement des épées, votre escapade vers l'est se fait sans éveiller l'intention des patrouilles ennemies. Alors que le soleil se lève devant votre équipée, la vallée de Tekirdag apparaît dans des couleurs chamarrées qui vous émerveillent, vous qui n'avez jamais quitté les murs d'albâtre de la cité éternelle. Pour la première fois depuis le début de votre aventure, le capitaine Omcha se tourne vers vous et vous déclare laconiquement.
« Vois ces couleurs, et comprends pourquoi ceux qui savent disent, tout n'est pas mauvais dans le sombre pays. »
Le soleil s'arrache de la ligne d'horizon et révèle une orée d'arbres tordus. sous l'impulsion du capitaine, vous repartez de plus belle vers l'est. Vous rejoignez l'orée de la forêt du Bolaïr, galopant au cœur des chênes lièges, des cèdres bleus et des pins parasols. Soudain, une flèche tirée depuis la fenêtre transperce le cou d'un des soldats Omshak qui tombe à la renverse. Le capitaine pique des deux, entraînant votre monture par la bride. Mais alors qu'un buccin de guerre sonne, un deuxième soldat Omshak s'effondre, une flèche fichée dans l'œil.
Regroupez-vous, protégez le mage!
Crache le capitaine en montrant ses crocs, et les trois chevaux se placent autour du vôtre, les soldats levant leurs boucliers pour parer à une volée de flèches. Alors que des elfes noirs à la foulée légère bondissent sur le mus sec de la forêt d'Ag au clair, les Omshak démontent et chargent. Vous n'êtes pas en reste, alors qu'un elfe noir tombe de la frondaison vous agrippant le cou et vous fait tomber de votre cheval. Vous ne percevez que rapidement cette pupille sombre qui vous fixe, mauvais, lorsque vous vous retrouvez à terre, le souffle coupé. L'instant d'après, une dague se lève au-dessus de vous, seulement un geste de vous être fatal. Le reflet du soleil vient briller la pointe de sa lame à l'orée d'un nouveau crime. Soudainement, ce geste meurtrier s'abat sur vous d'une rapidité assassine, et vous l'agrippez de vos deux mains, retenant la lame à quelques centimètres de votre cou. L'elfe commence à faire pression de tout son poids sur son arme, et sa tête se rapproche de votre visage pour vous murmurer.
Tu ne résisteras pas longtemps, chien de barbare.
Vous n'arrivez bientôt plus à soutenir le poids écrasant de l'elfe, et vous prenez conscience que peu de solutions s'offrent à vous. L'instant d'après, vous cédez face à la force qui s'exerce et s'abat sur vous. La lame vient alors terminer sa trajectoire comme le tir d'un fusil, droit et meurtrier directement vers sa cible. La lame termine sa trajectoire d'un seul coup et vient se planter au sol. Vous avez réussi à vous déplacer de quelques centimètres sur le dos pour éviter le coup et, profitant de la surprise de votre adversaire, vous infligez une frappe de votre genou en vous débarrassant de l'emprise de l'elfe qui perd sa lame. Avec rapidité et fourberie, vous réussissez à vous redresser et à vous positionner au-dessus de lui. Mais une pensée vous foudroie. Arriverez-vous à tuer une personne de sang-froid ? Vous dégainez votre dague et recevez dans le même moment un coup de poing visage. Dans l'adrénaline, vous ne ressentez que peu de douleur et vous criez pour asséner un coup fatal dans le corps de l'elfe. Une fois, deux fois, trois fois, des larmes commencent à couler sur votre joue. Quatre fois, cinq fois, six fois, vous vous épuisez, sept fois, huit fois, et vous effondrez sur le dos à côté de votre victime, Octan. Lorsque, barbouillé de sang sombre, vous reprenez vos esprits, la clairière offre le spectacle désolant d'un charnier de bataille. Les chevaux qui ne se sont pas enfuis perdent mortellement leur sang sur le sol dans de pathétiques gémissements. Ce qui fit la garde des hommes chats gît sans vie. Non sans avoir accompli leur ultime mission, tous les elfes noirs ont également été vaincus. Mais votre protecteur, le capitaine, vit encore, à genoux, une flèche dans la poitrine. Les yeux fermés, concentrés, il combat la mort et le sang qui emplit ses poumons pour gagner du temps et préparer son trépas selon le rite de Varna. À votre surprise, ces dernières paroles ne sont pas pour annoncer sa venue au passeur des âmes, mais pour vous.
Il y a dans le sombre pays bien des noirceurs et des périls, mais aussi de sublimes choses qui justifient le fait de l'avoir connu. Et en ceci, tu es un peu comme lui.
Son corps s'affaisse alors que la vie le quitte, et vous honorez son départ vers le passeur des âmes en dissimulant l'émotion que vous ressentez néanmoins. De toute façon, il faut agir vite. Vous êtes dans les premières limites de la forêt de Bolaïr. Vous avez la possibilité de revenir sur vos pas, plein ouest, pour rejoindre la lande de Tekirdag en vous rendant au podcast numéro 2.1. Vous pouvez aussi progresser vers le nord pour rejoindre la mer Marmoréenne en vous rendant au podcast 2.2. Ou alors, avancez plus au cœur de la forêt de Bolaïr, plein est, en allant au 2.3.